Bonsoir à tous et à toutes, et si vous nous rejoignez, bienvenue en Cantor pour cette journée de la radio qui touche presque à sa fin. Mais on n'allait pas se quitter sans un numéro spécial de notre émission de lecture à voix haute, Les yeux ont des oreilles. C'est déjà le 40e numéro, voilà qui ne rajeunit pas Transistor. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être entourée de Vinciane, Martin et Benoît pour explorer ensemble d'étranges paysages, absurdes, délirants, effrayants peut-être. Venez voyager avec nous au pays de l'impossible. Et commençons par un paysage aussi familier qu'étrange, aussi plein qu'il peut être désert et mortifère, qu'est le métro parisien, avec les mots de Bernard-Marie Coltès dans Roberto Zucco. Scène de compassion et de délicatesse au cœur de la vie violente et crue d'un tueur, la relation qui se noue entre Zucco et le vieillard dans la description commune qu'ils font du métro fermé ouvre vers mille perspectives de perdition comme de salvation. Entre moments d'arrêt pour l'un et péripéties pour l'autre, ces destins croisés au milieu de cet univers fantasmagorique nous transportent vers une autre facette d'un paysage pourtant si familier.
Métro. Sous une affichette intitulée « Avis de recherche », avec au centre le portrait de Zucco, son nom, assis côte à côte sur le banc d'une station de métro, après l'heure de fermeture, un vieux monsieur et Zucco. Le monsieur. Je suis un vieil homme et je me suis attardé au-delà de ce qui est raisonnable. Je me réjouissais d'avoir rattrapé le dernier métro, lorsque soudain, à un carrefour de ce dédale de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station, que je fréquente pourtant si régulièrement, que je pensais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais cependant qu'elle cachait derrière le parcours limpide que je pratique tous les jours, un monde obscur de tunnels, de directions inconnues, que j'aurais préféré ignorer mais que ma sotte distraction m'a forcé de connaître. Voilà soudain que les lumières s'éteignent et ne laissent comme clarté que celle de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais même l'existence. Je marche donc, droit devant moi, dans un monde inconnu, le plus vite possible, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le vieil homme que je suis. Et lorsque le bout d'interminables escaliers mécaniques à l'arrêt que je crois apercevoir une issue, patatras, un énorme grillage en interdit l'accès. Alors me voici ici, dans une situation bien fantaisiste pour un homme de mon âge. Puni de ma distraction et de la lenteur de mon pas, à attendre je ne sais trop quoi et je ne veux pas trop savoir quoi. Car de telles nouveautés décidément à mon âge sont dures à avaler. Sans doute le petit matin, oui sans doute est-ce cela que j'attends dans cette station qui m'était aussi familière que ma cuisine et qui me fait peur maintenant. Sans doute suis-je en train d'attendre que les lumières ordinaires se rallument et que passe le premier métro, mais je suis fort inquiet. Car je ne sais pas comment je reverrai la lumière du jour après une aventure aussi farfelue. Cette station ne m'apparaîtra plus jamais pareille. Je ne pourrais plus ignorer la présence de ces petites lanternes blanches qui n'existaient pas jadis. Et puis, une nuit blanche, je ne sais pas comment cela transforme la vie. Je ne l'ai jamais fait, tout doit être décalé. Les jours ne doivent plus alterner avec les nuits comme cela se faisait jadis. Je suis très inquiet au sujet de tout cela. Mais vous, jeune homme, dont les jambes me semblent bien agiles et l'esprit bien clair, oui, je vois bien votre regard clair et non pas trouble et sot comme celui du vieil homme que je suis. Il est impossible de croire que vous vous soyez laissé piéger par ces couloirs et ces grillages fermés, non. Même un grillage fermé, un jeune à l'esprit clair comme vous le traverserait comme une goutte d'eau à travers une passoire. Travaillez-vous ici la nuit ? Parlez-moi de vous, cela me rassurera. Zucco. Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me suis jamais fait remarquer. M'auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous ? J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur une pierre, passer à travers les murs, n'avoir ni couleur ni odeur, que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous, comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent, c'est un métier, c'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros, les héros sont des criminels. Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçue. Là, c'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, j'ai fait des études, j'ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève. Je suis inscrit à l'université. Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée, parmi d'autres bons élèves au milieu desquels je ne me fais pas remarquer. Je vous jure qu'il faut être un bon élève, discret et invisible pour être à la Sorbonne. Ce n'est pas une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont silencieux et traversés par des ombres dont on n'entend même pas les pas. Dès demain, je retournerai suivre mon cours de linguistique. C'est le jour demain du cours de linguistique. J'y serai invisible parmi les invisibles, silencieux et attentif dans l'épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait changer le cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie et que rien ne pourrait faire dérailler. Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la vase et qui se déplace très lentement et que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme qu'il a décidé de prendre. Le monsieur. On peut toujours dérailler, jeune homme, oui. Maintenant, je sais que n'importe qui peut les rayer n'importe quand. Moi qui suis un vieil homme, moi qui croyais connaître le monde et la vie aussi bien que ma cuisine, patatras, me voici hors du monde, à cette heure qui n'en est pas une, sous une lumière étrangère, avec surtout l'inquiétude de ce qui se passera quand les lumières ordinaires se rallumeront, et que le premier métro passera, et que les gens ordinaires, comme je l'étais, envahiront cette station. Et moi, après cette première nuit blanche, il va bien me falloir sortir, traverser la grille enfin ouverte, voir le jour alors que je n'ai pas vu la nuit. Et je ne sais rien maintenant de ce qui va se passer, de la lumière dont je verrai le monde, et dont le monde me verra ou ne me verra pas, car je ne saurai plus ce qui est le jour et ce qui est la nuit. Je ne saurai plus quoi faire. Je vais tourner dans ma cuisine à la recherche de l'heure, et tout cela me fait bien peur, jeune homme, Zuko. Il y a bien de quoi avoir peur, en effet. Le monsieur, vous bégayez très légèrement. J'aime beaucoup cela. Cela me rassure. Aidez-moi à l'heure où le bruit envahira ce lieu. Aidez-moi. Accompagnez le vieil homme perdu que je suis jusqu'à la sortie, et au-delà, peut-être. Les lumières de la station se rallument. Zuko aide le vieux monsieur à se lever et l'accompagne. Le premier métro passe. Lovecraft est particulièrement connu pour ses récits fantastiques et d'horreur, et pour avoir inventé le célèbre Cthulhu. Dans la nouvelle « La couleur tombée du ciel », il n'est pas question de Cthulhu, mais de l'histoire d'une ferme et de la forêt qui l'entoure, après la chute d'une pierre étrange.
À l'ouest d'Arkham, la montagne devient sauvage, avec des vallées dont nulle hache n'a jamais troublé les bois profonds. Il y a des ravins sombres et profonds, où les arbres poussent avec des formes fantastiques, et où coulent de maigres ruisseaux qui n'ont jamais reçu un rayon de soleil. Sur les pentes plus douces, on trouve d'anciennes fermes et des cottages couverts de mousse, tassés contre la roche, comme s'ils couvaient à jamais les secrets de la Nouvelle-Angleterre sur le rebord des abîmes. Mais ils sont tous abandonnés maintenant. Leur lâche luminée s'effondre et les bardeaux des murs gonflent dangereusement sous les toits brisés. Les anciens habitants sont partis et les étrangers n'aiment pas vivre ici. Des Canadiens français s'y sont essayés, des Italiens s'y sont essayés et les Polonais sont venus et repartis. Ce n'est pas à cause de quelque chose qui puisse être vu, ou entendu, ou compris. plutôt à cause de ce qu'on imagine. Ce n'est pas un lieu favorable à l'imagination, ou qui apporterait la nuit des rêves bienfaisants. C'est cela qui garde les étrangers à l'écart, parce que le vieil ami Pierce n'a jamais dit à personne ce dont tu te souviens des jours étranges. Ami, dont la tête est un peu dérangée depuis des années, est le seul qui se souvient encore, ou qui parle parfois des jours étranges. Et s'il l'ose, c'est parce que sa maison est assez proche de la zone des champs à découvert et des routes qui rejoignent Arkham. Quand j'arrivais à ces montagnes et vallées pour surveiller le nouveau barrage, ils me dirent que le lieu était maléfique. Ils me le dirent à Arkham, et, parce que c'est une très vieille ville pleine de légendes et sorcelleries, je pensais que ce maléfique venait de ce que les grands-mères chuchotaient aux enfants depuis des siècles. L'appellation « lande foudroyée » me semblait être très théâtrale et bizarre, et je me demandais comment cela s'était intégré au folklore d'un peuple si puritain. Puis je découvris moi-même, à l'ouest, ce sombre enchevêtrement de vallons et collines, et cessais de m'étonner de quoi que ce soit d'autre que son propre et ancien mystère. C'était un matin quand je le découvris, mais l'ombre ici menaçait en permanence. Les arbres grossissaient trop épaissement, et leur tronc était trop large par rapport à nos bois ordinaires de Nouvelle-Angleterre. Il y avait trop de silence dans les minces allées qui les séparaient, et le sol était trop mou et tapissé de cette mousse humide comme d'infinies années de déclin. Dans la zone découverte, principalement le long du tracé de l'ancienne route, il restait quelques petites fermes dans les collines, parfois avec tous leurs bâtiments encore debout, quelquefois seulement un ou deux, et parfois juste une cheminée solitaire ou une grange. L'herbe et la bruyère dominaient, et des choses furtives et sauvages faisaient bruire les fourrés. Sur toute chose restait un relent de nervosité et d'oppression, une touche d'irréalité ou de grotesque, comme si quelque vital élément de perspective ou de clair-obscur s'était détraqué. Je ne m'étonnais plus que des étrangers n'aient pu demeurer, ce n'était pas un lieu pour y dormir. C'était plutôt un paysage du peintre Salvator Rosa, beaucoup plus comme quelques bois interdits dans un conte de terreur. Mais rien n'était si affreux que la lande foudroyée. Je le sus au moment où je débouchais à l'entrée d'une large vallée, parce qu'aucun autre nom n'aurait convenu à une telle chose, ou bien toute autre chose aurait pu prendre ce nom. C'était comme si un poète avait battu cette expression, parce qu'il avait vu ce lieu particulier. Cela devait, pensais-je lorsque je le vis, être le résultat de l'incendie. Mais pourquoi rien n'avait jamais repoussé sur ces 5 hectares de désolation grise qui rampaient sous le ciel comme une grande tache mangée par l'acide parmi les bois et les champs? On était largement au nord de l'ancien tracé de la route, mais cela débordait aussi de l'autre côté. Je perçus une forte répugnance à en approcher, et ne l'entrepris que parce que mon métier m'y amenait et me forçait à le traverser. Il n'y avait aucune végétation de quelque sorte sur cette vaste étendue, mais rien qu'une fine poussière ou cendre grise, dont il semblait que jamais aucun vent n'avait tenté de la souffler. Les arbres alentour semblaient malades et distordus, et beaucoup de troncs morts étaient restés debout ou pourrissaient dans les fossés. Comme je traversais sans traîner, je croisais les briques et pierres écroulées d'une vieille cheminée et d'un cellier sur ma droite, et la gueule noire et bâillante d'un puits abandonné dont les vapeurs stagnantes jouaient d'étranges tours dans le halo de la lumière du soleil. Même la longue pente sombre du bois, grimpant au-delà, semblait accueillante par contraste, et je ne m'étonnais plus des chuchotements épouvantés des gens d'Arkham. Il n'y avait pas d'autres maisons ou ruines à proximité. Même dans les anciens jours, le lieu avait dû être solitaire et isolé. Passer à un monde post-apocalyptique, avec le paysage que donne à voir Mondokan, livre de Jacques Barbéry. Dans ce paysage, que les héros découvrent en même temps que nous, les images ne sont pas faites de ruines et de gratte-ciel abandonnés, de béton craquelé et de rouille. Dans ce paysage que l'on peine à entendre, mais qui s'imprime une fois entendu sur la rétine dans toute son absurdité, le lecteur perd pied en même temps qu'il perd conscience du concevable. Contemplons maintenant avec Barbery les montagnes du futur.
Le glisseur se rapprochait lentement de la montagne de Cor. Cette dernière oblitéra bientôt l'horizon. Jacques pouvait distinguer de plus en plus facilement les détails sordides de cette étrange sculpture, les crânes, les jambes, les torses amalgamés. Lorsque le glisseur s'immobilisa, à quelques mètres de la base, il perçut le bruit. La montagne entière gémissait. En s'approchant des premiers corps, précédés par Maxton, Jacques vit des centaines d'yeux se tourner vers lui. Il tituba, se sentit défaillir. « C'est incroyable, » murmura-t-il. Maxton le soutint par les épaules. « Surprenant, n'est-ce pas ? Mais on finit par s'y habituer, comme pour tout le reste. La montagne est vivante. Tous les corps sont vivants. Ils ne parlent pas, jamais. La montagne se contente d'émettre une longue plainte. Ses milliers de bouches actionnées à l'unisson. Une marque de reconnaissance, de reproche. Difficile à savoir. Suis-moi. » Maxton longeait la base de la pyramide de Cor. Jacques le suivait péniblement en trébuchant dans le sable. Il supportait difficilement tous ses regards braqués sur eux, en rafale suivant le moindre de ses gestes. Un kangourou des sables détala à leur approche. Jacques se dit que la montagne, si elle refusait de parler aux humains, engageait peut-être le dialogue avec les animaux mutants, plus proche d'elle finalement. Une conversation de soupirs et de regards. La base de la montagne était gigantesque. En regardant devant soi, on ne parvenait à distinguer qu'une légère courbure, une circonférence impressionnante. Jacques fit une pause et se décida enfin à contempler les hauteurs. La vision qui frappa ses rétines lui rappela les cathédrales de Kölning ou de Strisberg. Mais là, il s'agissait d'une architecture organique constituée de gargouilles de chair. Jacques baissa lentement les yeux. Le malaise passé, il fut envahi par une sorte d'étrange fascination. Les corps étaient soudés entre eux de façon anarchique. Un pied s'enfonçait dans un ventre, un sexe pénétrait un front, une main perforait un crâne. Les anastomoses étaient parfaites, une véritable colonie de frères et sœurs siamois. Que pouvaient bien percevoir ceux qui étaient enfouis au cœur de la montagne ? Les occupants de la périphérie leur envoyaient-ils des messages de l'extérieur par l'intermédiaire des soudures ? Et de quoi se nourrissait l'ensemble ? Autant de questions qui plongeaient Jacques dans un abîme de perplexité et d'angoisse. Il se sentit soudain tout petit, ridicule, un misérable ver de terre qui n'avait même pas conscience des êtres gigantesques qui s'activaient au-dessus de lui. Perdu dans ses pensées, il ne réalisa pas que Maxton s'était arrêté. Le percuta de plein fouet. Eut l'impression de rentrer dans un mur. Maxton éclata de rire. « Une véritable armure, petit !» Il se donna un coup de poing sur la poitrine. Elle émit un curieux son de cloche. Maxton reprit très vite un air sérieux. « Jacques, je te présente ma sœur, Ezil. » Jacques ne comprit pas tout de suite ce que Maxton était en train de lui dire. Puis il suivit la direction qu'indiquait son bras. Il vit la jeune fille à 3 ou 4 corps de hauteur. Son dos était soudé à la pyramide. L'une de ses jambes terminait sa course dans la poitrine d'une jeune femme, juste entre les seins. La main d'un homme paraissait délicatement posée sur sa bouche. Les yeux de la jeune fille étaient verts d'eau. Dès que leurs regards se croisèrent, Jacques eut l'impression de couler à pic. En 1947, Jean Giono publie « Un roi sans divertissement ». Dans un étrange village du Dauphiné, un inconnu profite des neiges de l'hiver pour égrener un chapelet de cadavres. Le paysage enneigé qui dissimule le crime est bien plus qu'un simple décor. Symbole d'un univers immobile, d'une humanité figée dans l'ennui existentiel et l'absurdité, il en est lui-même la clé de l'énigme policière, mais surtout métaphysique, du roman de Giono.
43, 1800 évidemment. Décembre. L'hiver qui avait commencé tôt, et depuis, dardard, sans démarrer. Chaque jour, la bise. Les nuages s'entassent dans le fer à cheval entre l'Archa, le Jocon, la Plénie, le Mont des Pâtres et l'Avers. Aux nuages d'octobre déjà noirs se sont ajoutés les nuages de novembre encore plus noirs, puis ceux de décembre par-dessus. Très noir et très lourd. Tout se tasse sur nous, sans bouger. La lumière a été verte, puis boyau de lièvre, puis noir, avec cette particularité que, malgré ce noir, elle a des ombres d'un pourpre profond. Il y a 8 jours, on voyait encore le haber du Jocon, la lisière des bois de sapin, la clairière des gentianes, un petit bout des prés qui pendent d'en haut. Puis les nuages ont caché tout ça. Bon. Alors on voyait encore prés fleuris et les troncs d'arbres qu'on a jetés de la coupe. Puis les nuages sont encore descendus et ont caché prés fleuris et les troncs d'arbres. Bon. Les nuages se sont arrêtés le long de la route qui monte au col. On voyait les érables et la patache de midi et quart pour Saint-Maurice. Il n'y avait pas encore de neige. On se dépêchait à passer le col dans les deux sens. On voyait encore très bien l'auberge, cette bâtisse que maintenant on appelle Texaco, parce qu'on fait de la réclame pour de l'huile d'auto sur ses murs. On voyait l'auberge, et tout un trafic de chevaux de renfort pour des fardiers, qui se dépêchaient de profiter du passage libre. On a vu le cabriolet du voyageur de la maison Colomb et Bernard, marchand de boulons à Grenoble. Il descendait du col. Quand celui-là rentrait, c'est que le col n'allait pas tarder à être bouché. Puis les nuages ont couvert la route, Texaco et tout. On bavait en dessous des prés de Bernard, les haies vives. Et ce matin, on voit, bien entendu encore, les 20 à 25 maisons du village avec leur épaisse barre d'ombre pourpre sous l'auvent. Mais on ne voit plus la flèche du clocher. Elle est coupée ras par le nuage, juste au-dessus des sud, nord, est, ouest. D'ailleurs, tout de suite après, il se met à tomber de la neige. À midi, tout est couvert, tout est effacé. Il n'y a plus de monde, plus de bruit, plus rien. Des fumées lourdes coulent le long des toits et emmantèlent les maisons. L'ombre des fenêtres, le papillonnement de la neige qui tombe l'éclaircit et la rend d'un rose sans frais, dans lequel on voit battre le métronome d'une main qui essuie le givre de la vitre. Puis apparaît dans le carreau un visage émacié et cruel qui regarde. Tous ces visages, qu'ils soient d'hommes, de femmes, même d'enfants, ont des barbes postiches, faites de l'obscurité des pièces desquelles ils émergent. Des barbes de raffia noirs qui mangent leur bouche. Ils ont tous l'air de prêtres d'une sorte de serpent à plumes. Même le curé catholique, malgré l'aura pro nobis gravée sur le linteau de la fenêtre. 1 heure, 2 heures, 3 heures. La neige continue à tomber. 4 heures, la nuit, on allume les âtres, il neige. 5 heures, 6, 7, on allume les lampes, il neige. Dehors, il n'y a plus ni ciel, ni terre, ni village, ni montagne. Il n'y a plus que les amas croulants de cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater. La pièce même où l'âtre s'éteint n'est plus habitable. Il n'y a plus d'habitable, c'est-à-dire il n'y a plus d'endroit où l'on puisse imaginer un monde aux couleurs du pan que le lit. Et encore, bien couvert et bien serré, à deux ou à trois, quatre, des fois cinq. On n'imagine pas que ça puisse être encore si vaste, les corps. Qui aurait pensé à Chichiliane? Et pourtant, c'était justement ça. Un jour, deux jours, trois jours, 20 jours de neige, jusqu'aux environs du 16 décembre. On ne sait pas exactement la date, mais enfin, 15, 16 ou 17. C'est un de ces trois jours-là, le soir, qu'on ne trouva plus Marie Chazotte. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous réécouter sur le site de Transistor, où vous trouverez aussi les références des musiques. Mais tout de suite, restons dans le domaine de l'absurde, de l'étrange et de l'inexplicable avec la séance d'hypnose que nous propose Nelly. Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles, Transistor n'en finira pas de vous surprendre.